Bonjour et bienvenue, vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, nous revenons sur le thème du minimalisme et de la consommation intentionnelle avec le concept de cycle de consommation. Avant de changer ses comportements de consommateur et d'utilisateur d'objets, je me suis dit que ce serait intéressant de se demander comment fonctionne le cycle d'un objet pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire et à quel niveau du cycle finalement. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme après mon retour du Japon, j'étais très motivée pour changer mes comportements du tout au tout. Je voulais un logement plus épuré, léger, agréable à vivre, je voulais m'entourer d'objets utiles et agréables, mais je voulais aussi moins consommer, mieux dépenser mon argent, en soutenant des marques dont je partageais les valeurs, prendre soin de mes affaires et réfléchir aux déchets. Alors autant vous dire que très vite, je ne savais pas du tout par où commencer. Vous imaginez la montagne de paramètres à prendre en compte, d'habitudes à remettre en question ou encore d'informations à rassembler avant de faire un choix et de prendre les décisions et de changer ses habitudes. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent dépassé par la situation? Ben, en ce qui me concerne, j'ai peu à peu baissé les bras. C'est-à-dire qu'après un premier tri qui avait été très efficace pour me laisser à l'intérieur propre et épuré, je suis petit à petit retournée à mes habitudes quotidiennes et en quelques années, la plupart de mes bonnes résolutions se sont évaporées et le bazar est revenu dans mon appartement. Donc ça c'était jusqu'au mois de mars 2011, donc 4 ans après mon retour du Japon. Il y a une chose que j'avais réussi à garder bien minimale, c'était mes collections culturelles, donc les livres, les DVD, les mangas et les jeux que j'avais beaucoup diminué à mon retour du Japon, puisque c'était l'origine de mon questionnement autour de la simplicité à l'époque. Mais entre-temps, j'ai terminé mes études, j'ai rendu deux mémoires de fin d'études, j'ai commencé à rentrer dans la vie active, j'ai découvert le monde du travail, hors boulot étudiant. Et c'était une période de la vie où mon attention et mon énergie étaient complètement drainées, d'un côté par mes études, parce qu'en plus je faisais des petits boulots à côté pour pouvoir les payer, et ensuite par mon entrée dans la vie active. Et du coup, dans cette vie prenante, les questions de minimalisme se sont peu à peu estompées. Jusqu'en mars 2011, où j'ai pris conscience de la quantité d'argent que j'avais dépensé dans les vêtements, les accessoires et le maquillage en moins de 6 mois, quand je faisais un petit peu le point de mes comptes. Et donc j'ai un petit peu réfléchi à tout ça, et je me suis rendu compte que pour m'intégrer dans ce monde d'adulte en tant que jeune active, je m'étais mise à beaucoup dépenser dans l'apparat, pour compenser le manque de confiance en moi, en tant que jeune salarié inexpérimenté, qui a 10 ans de moins que tout le monde, etc., etc. Je voulais avoir l'air professionnel, et du coup j'avais mis beaucoup d'argent et beaucoup d'objets dans mon apparence physique, mes vêtements, mes accessoires, etc., etc. Alors, il n'y a aucun mal à vouloir bien présenter quand on arrive dans le monde du travail, au contraire. Par contre, ce qui a été déterminant pour moi, ça a été la quantité de vêtements et d'accessoires que j'ai achetés. C'est-à-dire que j'avais vraiment reporté mes habitudes de consommation des objets culturels vers la mode et la beauté. Sans compter que cette sorte d'uniforme professionnelle sérieuse que je m'étais forgée pour quelque part en barrière à ma confiance en moi ou à mon manque de confiance en moi ne me correspondait pas du tout. Alors ça, c'est une histoire pour un autre jour. Disons que ce que ça veut dire, c'est que c'était des achats qui étaient faits pour compenser quelque chose, pour combler un besoin d'être prise au sérieux, un besoin d'avoir confiance en moi-même aussi, un besoin d'estime de moi, et que du coup les objets n'étaient plus du tout utilisés comme leur utilité de base, qui est d'être présentable quand on va au travail. Ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la manière dont je me suis remise à simplifier ma vie peu à peu à ce moment-là, en partant du concept de cycle de consommation et en faisant les choses vraiment une par une, petit à petit, à partir de cette base-là qui m'a donné des pistes d'idées, qui a un peu structuré tout ça, là où quand vous commencez à penser au minimalisme, ça peut être un fouillis énorme qui paraît complètement insurmontable. Donc suite à cette prise de conscience, j'ai décidé de consacrer à nouveau du temps et de l'énergie pour comprendre mes comportements de consommation et simplifier ma vie. Mais c'est là que je me suis sentie un peu dépassée et que je me suis demandé par où commencer. Peut-être que vous vous retrouvez dans ce genre de « entre guillemets rechute » si vous simplifiez déjà votre vie depuis un moment ou tout simplement si vous débutez et que vous ne savez pas trop par où commencer. Alors, je vais partager avec vous la manière dont j'ai découpé les choses de manière à transformer cette masse un peu déconcertante en pistes d'idées et d'actions que j'ai mises en place peu à peu, si ça peut vous aider vous aussi à mettre un petit peu d'ordre dans votre projet de simplification. Et donc, tout commence par le découpage du cycle de vie des objets. Donc en gros, ce cycle de vie d'un objet, c'est toutes les phases par lesquelles il passe, depuis sa fabrication jusqu'à ce qu'il soit jeté. Et donc si on veut simplifier les choses, il se découpe en 5 grandes étapes, dont 3 nous concernent directement en tant que consommateurs et consommatrices. Donc ces étapes sont la fabrication de l'objet, sa mise en vente, son utilisation, le fait de le jeter, et puis ensuite, comment est-ce qu'on dispose des ordures. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Story of Stuff sur YouTube, qui doit être sous-titrée en français depuis le temps, parce qu'elle a été tournée il y a une dizaine d'années maintenant. Donc en fait, c'est une vidéo assez courte, avec des illustrations simples et compréhensives, qui rentrent dans le détail du cycle de vie des objets. Donc si vous voulez vous renseigner plus en détail, je vous invite à aller voir cette vidéo, dont je vais mettre le lien dans les notes de l'émission, sur le site simple-du6-cité.com. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de chacune de ces étapes et comment est-ce qu'on peut se trouver des pistes de réflexion et des pistes d'action, surtout quand on veut simplifier sa vie. Donc la première étape, ça va être la fabrication. Donc c'est quelles matières premières sont utilisées, où sont-elles transformées en objets, comment elles sont extraites déjà et traitées, puis où est-ce qu'elles sont transformées en objets, dans quelles conditions sociales et environnementales tout se passe ce processus d'extraction et de transformation, et finalement c'est un petit peu quelle est la qualité et l'éthique de l'objet qui en résulte. Donc sur cette étape, en tant que consommateur, on ne joue pas un rôle direct, puisque dans la plupart des cas, à moins de fabriquer certaines choses nous-mêmes, ce qui arrive, on y reviendra dans des émissions futures, mais dans la plupart des cas, c'est une étape qui se passe avant que le consommateur n'entre en jeu. Nous, on achète des produits qui sont déjà préparés. Cela étant, du point de vue de la simplicité urbaine, je trouve que cette étape de fabrication est intéressante parce que ça permet de réfléchir au type de renseignements qu'il faudrait récupérer sur les différents produits, sur les différentes marques, pour choisir quel type d'objet vous avez ensuite envie d'acheter, qui est l'étape suivante. C'est-à-dire quel type de qualité, quel type d'éthique de fabrication, ou quel type d'entreprise finalement vous souhaitez soutenir avec votre portefeuille. Donc c'est intéressant d'être un petit peu au courant de cette première étape et d'aller glaner un petit peu les informations sur d'où viennent les objets que vous achetez et comment ils ont été fabriqués. Ensuite la deuxième étape c'est la mise en vente et donc du côté consommateur l'achat. Donc ça, c'est la première étape du cycle de consommation à notre échelle. C'est le moment où on décide de faire l'acquisition d'un nouvel objet. Alors bien sûr, on pense à ces objets tout juste fabriqués qui finissent en magasin ou en ligne, mais évidemment qu'on peut aussi acheter un objet d'occasion. En tant que consommateur, on peut agir sur cette étape tout d'abord en achetant moins. C'est un petit peu le principe de base du minimalisme, c'est de moins consommer qu'avant. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment la base de la réflexion minimaliste. Pour moi, la base, c'est pas de posséder très peu d'objets, pour moi, la base, c'est d'acheter très peu d'objets en fait. Donc le fait de consommer dans des volumes beaucoup plus réduits que la norme que nous impose la société de consommation aujourd'hui, c'est un premier pas qui est vraiment intéressant à réfléchir. Et vous voyez, je vous parle de normes de la société de consommation aujourd'hui, c'est ça que je suis intimement persuadée qu'aujourd'hui, tout un chacun, même les foyers qui sont assez modestes, en tout cas dans les pays occidentaux, on consomme énormément, et je suis sûre que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents seraient effarés de voir tout ce qu'on consomme, et en fait, nous on a l'impression que c'est normal, parce qu'on a été élevé là-dedans, on a été éduqué pour consommer autant. Mais j'imagine, en tout cas, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, si elles me voyaient acheter 20 ou 30 vêtements différents par an, elles trouveraient ça énorme, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre en question cette quantité acceptée ou cette quantité entre guillemets normale d'objets qu'on achète chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et commencer par remettre ça en question. Donc à vous de décider ce que peu consommer signifie pour vous. Qu'est-ce que réduire le volume, c'est réduire de combien à combien, d'où est-ce que vous partez, dans quel type de domaine, est-ce que vous voulez réduire plus que d'autres. Je ne vais pas vous donner de règles fixes, puisque pour moi, il n'y en a pas. C'est vraiment à chacun de voir ce qui correspond à son style de vie, à ce qu'il est capable de faire aussi, au fur et à mesure du temps. Et puis surtout, c'est une chose qui se fait par étapes. C'est-à-dire que quand on a été élevé dans une société de consommation, on ne va pas du jour au lendemain se retrouver à plus rien acheter, sachant que les objets ne sont pas forcément d'aussi bonne qualité qu'à l'époque de nos grands-mères et que les vêtements ils sont pas aussi durables qu'à l'époque, mais ça c'est l'étape suivante, on va y venir. Donc ça c'est la première étape, enfin la première chose sur laquelle on peut agir sur cette étape du cycle qui est l'achat. La deuxième manière dont on peut agir sur cette étape, c'est en consommant autrement. Donc par exemple, moi la première chose que j'ai tendance à faire maintenant, c'est d'acheter d'occasion. C'est-à-dire acheter un objet qui a déjà été fabriqué plus loin dans le passé, qui a déjà été utilisé par quelqu'un, que cette personne, pour une raison X ou Y, n'en a plus l'utilité, et que je vais pouvoir réutiliser. Et ce, plutôt que d'encourager la production de quelque chose de neuf, alors qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'objets en circulation pour combler la plupart des besoins. Donc c'est pour ça que j'aime me tourner vers tout ce qui est vide-grenier, des magasins comme Emmaüs par exemple, des sites comme Le Bon Coin, ce genre de choses. Donc tout ça, ça permet d'encourager l'utilisation de ce qui existe déjà pour éviter d'épuiser encore davantage de ressources, et ça permet aussi de faire des économies. En ce qui concerne tout ce qui est mobilier, etc., en allant sur les vide-greniers, j'ai pu trouver des meubles de bien meilleure qualité, en bois massif, des choses comme ça, au même prix, voire moins cher que du mobilier IKEA par exemple, alors que c'est pas du tout la même qualité, c'était nettement meilleure qualité qu'IKEA par exemple. C'est aussi pour ça que quand on a emménagé récemment avec mon mari, mes beaux-parents nous ont proposé de nous transmettre des meubles familiaux, et peut-être que certains auraient le réflexe de dire « ah bah non, c'est vieillot, machin », bah moi je l'accueillis avec énormément de reconnaissance, énormément de gratitude, et on a accepté avec plaisir, parce que dans ma vision du minimalisme, je préfère utiliser un meuble qui vient des arrière-grands-parents de mon mari, qui est aujourd'hui dans une cave, qui sert à personne, plutôt que d'encourager l'achat de neuf en allant acheter une nouvelle table alors qu'il y a cette table dans une cave qui peut nous servir. Voilà, c'est un exemple, hein, à chacun de trouver sa manière de consommer d'occasion, mais en ce qui me concerne, ça fait partie des pistes que j'explore et qui sont à la fois utiles d'un point de vue écologique et d'un point de vue budget. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite on peut aussi consommer autrement en achetant du neuf, mais en choisissant auprès de qui on consomme. Donc c'est le fameux, entre guillemets, voter avec son portefeuille. C'est que quand vous achetez un objet à une marque ou à une entreprise, vous encouragez ses pratiques, puisque vous achetez les produits qu'ils vous proposent. Donc dans une vie plus simple, l'idée c'est qu'on peut agir en choisissant à quel type d'objet, quelle marque, quel revendeur on souhaite donner notre argent. Et donc l'idée, ça va être de définir vos valeurs et vos priorités, en fonction aussi de vos contraintes géographiques, de vos contraintes de budget, etc., etc. Et de choisir auprès de qui vous consommez, en fonction de ces valeurs-là. Par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, je préfère favoriser le marché, les AMAP, ce genre d'initiative-là, plutôt que d'aller au supermarché. Dans le domaine, par exemple, de la déco, des vêtements, des bougies, ce genre de choses, je préfère favoriser les artisans et les créateurs locaux, et les magasins locaux qui revendent plusieurs artisans et créateurs, plutôt que des grandes enseignes de vêtements et de décoration, quitte à les payer plus cher. Et après, ça va être un équilibre de prix entre ce qu'on peut acheter d'occasion, ce qui va coûter un peu plus cher, etc. Tout ça, en fait, l'idée, c'est de relier tout ça à vos valeurs, vos priorités et vos contraintes. Donc au final, agir sur l'étape de l'achat revient à devenir un consommateur averti et intentionnel. C'est-à-dire apprendre à ne plus consommer pour des raisons émotionnelles, comme l'époque où j'ai acheté des tas de vêtements pour me donner une contenance et récupérer une confiance en moi, ou pour combler des besoins de ce type-là, parce que ce sont des besoins que les objets ne peuvent pas combler. Et au contraire, l'idée dans la simplicité urbaine telle que je la conçois et telle que je vous la présente ici, c'est de se mettre à réfléchir sur l'utilité que va remplir l'objet dans votre vie, ce qui vous fait vraiment plaisir, les valeurs que vous avez envie de soutenir, etc., etc. La troisième étape du cycle de consommation que j'ai envie de présenter aujourd'hui, c'est l'utilisation de ce qu'on possède. Alors c'est une étape peut-être un peu moins intuitive que les autres quand on parle de minimalisme, puisqu'on parle souvent de comment acheter ou encore de trier ce qu'on n'utilise pas, de débarrasser son intérieur, etc. Mais pour moi, la manière d'utiliser nos objets, donc l'étape qui est entre les deux, entre l'achat et le tri, compte aussi. Et du coup, donc cette étape-là, c'est évidemment toute la période de vie de l'objet, où il est chez nous, et où on l'utilise régulièrement, ou pas d'ailleurs. Et pour agir sur cette étape-là, je me pose des questions du type « Est-ce que j'utilise vraiment tous les objets régulièrement ?» Donc j'entends utiliser au sens large, par exemple, un tableau qui orne le mur de votre salon, qui est une décoration, il est utilisé, puisqu'il décore votre salon et que vous le voyez tous les jours quand vous arrivez dans le salon. Là où un tableau qui prend la poussière au fond d'une cave, bah là c'est un tableau qui n'est pas utilisé. Donc quand je parle d'utiliser un objet, ça inclut évidemment, par exemple, la fonction esthétique d'objets qui sont là pour décorer. Donc, est-ce que j'utilise les objets que je possède ? Est-ce qu'ils sont adéquats à mon style de vie, à la taille de mon appartement, aux occupations que j'ai quand je suis chez moi ? Par exemple, est-ce que c'est utile d'avoir un service de 24 assiettes s'il n'y a jamais plus de 3 personnes qui mangent chez moi, par exemple. Est-ce que c'est adéquat avec les contraintes aussi du quotidien? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça facilite la vie? Est-ce que c'est vraiment super d'avoir ces super verres en cristal méga luxueux si c'est un gamin de 3 ans qui va boire dedans, par exemple? Est-ce que, à l'inverse, je suis entourée d'objets ou certains des objets qui m'entourent ont des inconvénients d'utilisation? Ils sont chiants à laver, par exemple, ou ça fuit, c'est mal foutu, etc. Ou ça a mal vieilli. Est-ce que les objets sont en bon état? Est-ce qu'ils me vont encore, par exemple, pour des vêtements? Est-ce qu'ils me vont encore au corps tel que j'ai maintenant par rapport au corps que j'avais quand je les ai achetés? Donc, en gros, pour moi, toutes ces réflexions autour de la manière de prendre soin de ce qu'on a, de s'assurer qu'on utilise des objets adaptés, qu'on est en mesure de réparer, voire qu'on va redonner du lustre à nos objets usés, etc. Donc tout ça, ça va être des pistes d'action qu'on peut prendre pour mener une vie plus simple à partir de ce qu'on possède déjà. Par exemple, mon mari et moi, on a récupéré un service d'argenterie, donc des couverts en argent, de la part de mes beaux-parents. Lorsqu'on s'est installés ensemble, c'est les mêmes beaux-parents qui nous ont filé la table pour manger, donc ils sont vraiment cool et j'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ça. Donc l'argenterie en question, c'est typiquement le genre d'objet d'excellente qualité, qui est agréable à utiliser, qui est porteur d'une valeur sentimentale aussi, et qu'on pourrait avoir tendance à les laisser dans le placard et à les sortir le dimanche, quand on a des invités, ou pendant les fêtes, etc. Et bah chez moi, on utilise l'argenterie tous les jours, parce qu'elle est là, elle nous a été donnée, elle a une certaine valeur, et pourquoi est-ce que ça resterait au fond d'un placard? C'est justement le type d'objet qui est fait pour être utilisé tous les jours. Donc voilà, un exemple où je pratique la simplicité urbaine, c'est que j'utilise ce que j'ai. Et on a un peu parfois cette idée qu'un objet un petit peu précieux, que ce soit précieux sentimentalement ou précieux parce que ça a beaucoup de valeur marchande, on va avoir tendance à vouloir le garder pour plus tard, à vouloir le préserver. Mais à quoi ça sert d'avoir des objets aussi beaux si vous ne les utilisez pas? Un autre exemple, c'est d'apprendre comment prendre soin et réparer des objets. Comment est-ce qu'on entretient le cuir ou le bois, par exemple? Comment est-ce qu'on enlève une tache sur les vêtements en coton? Comment prolonger la durée de vie du fer à repasser en utilisant de l'eau déminéralisée? Ce genre de choses. Tout ça, c'est des petites choses qui sont des ajustements du quotidien qui prennent pas beaucoup de temps. L'idée, c'est pas de passer 20 heures par semaine à s'occuper de ces objets comme une ménagère des pubs des années 50. Hein. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est juste d'avoir des petits réflexes qui permettent de prendre soin des objets et de les faire durer plus longtemps avant d'avoir à les remplacer. Parce que j'ai parfois l'impression que dans la société actuelle, donc de consommation, on a tendance à moins prendre soin des objets parce qu'on part du principe que c'est facilement remplaçable, que ça coûte pas cher, que de toute façon on va avoir envie de les changer à la prochaine saison parce qu'on va les trouver ringards. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai remarqué, quand je compare avec la manière dont mes parents, mes grands-parents prennent soin de leurs objets, j'ai remarqué que j'ai tendance à pas savoir comment prendre soin, je sais pas comment détacher un vêtement, comme si, quelque part, comme on sait que c'est jetable et remplaçable, et ben on prend plus du tout la peine de prendre soin de ce qu'on a. Donc ça peut faire partie d'une piste de réflexion pour une vie plus simple au quotidien, c'est de prendre soin de ce qu'on a et d'en tirer le meilleur, plutôt que de le jeter et de le remplacer en permanence. Donc pour moi, c'est vraiment une composante importante du minimalisme, surtout quand on parle de cette fameuse théorie de la qualité plutôt que de la quantité, c'est-à-dire qu'on lit beaucoup dans le minimalisme, les gens qui disent « arrêtez les trucs pas chers qui se cassent vite, mettez plus d'argent dans des objets de meilleure qualité et vous vous y retrouverez sur le long terme parce qu'ils vont vous durer beaucoup plus longtemps, vous n'aurez pas besoin de les changer ». Enfin ça c'est vrai si on en prend soin de manière à ce que ça dure effectivement plus longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est une étape importante finalement dans le cycle de vie d'un objet et dans la manière dont on peut agir dessus dans le cadre d'une vie plus simple. La quatrième étape du cycle de consommation, c'est quand on se sépare des objets usés, des emballages, etc. Donc l'étape de tri. Donc que fait-on quand un objet n'est plus utilisable? Combien de déchets jette-t-on chaque semaine? Est-ce qu'on recycle? Est-ce qu'on composte? Est-ce que les objets encore en bon état pourraient être vendus ou donnés, servir à quelqu'un d'autre, retourner sur le marché de l'occasion plutôt que de finir à la poubelle? Donc tout ça, c'est le côté, ben, tout ce qui quitte en fait notre maison, notre logement. Donc produire des déchets a un impact sur l'environnement. Et du coup, pour moi, réfléchir à la manière dont on dispose de ce dont on n'a plus besoin, que ce soit des objets en bon état ou des déchets, ça fait aussi partie des pistes de réflexion qu'on peut explorer pour mener une vie plus simple. Et en fait, c'est une étape qui aura un impact sur les deux autres. Parce que par exemple, si vous voulez réfléchir à la réduction de vos déchets, vous allez acheter des objets sans emballage, ou avec des emballages en matière recyclable. Vous allez prendre davantage soin de ce que vous possédez et les réparer, par exemple, pour pouvoir les utiliser plus longtemps avant de les jeter. Donc je trouve qu'un mouvement très utile lorsqu'on veut approcher cette étape-là du cycle de consommation, c'est le mouvement qu'on appelle le zéro déchet, qui a été popularisé par une Française qui habite à San Francisco, qui s'appelle Bea Johnson. Je vous mettrai les références dans les notes de l'émission. Et en gros, le principe, c'est de réfléchir à tout un style de vie qui permet de produire le moins de déchets possible. Donc là, c'est au-delà de comment est-ce qu'on se débarrasse des objets dont on n'a plus besoin. C'est vraiment comment est-ce qu'on produit moins de déchets alimentaires, comment est-ce qu'on jette moins d'emballages, moins de papier, moins de toutes ces choses-là. Alors, je trouve le nom de zéro déchet assez mal choisi finalement, parce que je trouve que ça met une pression monstrueuse de se dire quoi, il faut que je réduise les déchets à zéro alors que je jette une poubelle ménagère complète toutes les semaines par exemple. Et du coup ça peut faire fuir en fait devant l'ampleur de la tâche si on se dit je veux faire comme Bea Johnson et avoir une jarre de déchets par an quoi. Donc sans aller jusque là, je trouve que c'est important et intéressant en tout cas de réfléchir à la réduction des déchets et à l'impact environnemental du fait de produire moins de déchets, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces déchets-là ? Donc je pense qu'on reparlera plus en détail de tout ça dans une émission future, mais l'idée des pistes de réflexion sur cette étape-là du cycle de consommation, c'est de réfléchir d'un côté les objets que vous n'utilisez plus, s'ils sont encore en bon état, qu'est-ce que vous en faites ? Donc, est-ce que vous les vendez ? Est-ce que vous les donnez ? Est-ce que vous en profitez pour faire marcher une œuvre de charité, par exemple ? Si c'est des objets qui sont cassés par exemple, ou si c'est des emballages, est-ce que ça peut être recyclé ? Est-ce que ça peut être réutilisé différemment ? Je sais que par exemple j'utilise beaucoup mes flacons de bougies qui sont en verre avec un couvercle, ben, je les réutilise pour en faire des flacons à épices par exemple. Ou pour mettre la sauce salade de la semaine, ce genre de choses. Je fais beaucoup de réutilisation, de détournement d'utilisation en fait d'objets pour... Déjà ça évite d'acheter par exemple des flacons à épices dans ce cas-là, et en plus ça permet d'éviter de jeter ces flacons en verre qui sont tout à fait réutilisables. Donc ça c'est un élément de question, et après il y a tout l'élément de question autour de la production de déchets dans nos poubelles en fait, donc est-ce qu'on peut mettre en place un compost par exemple, qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui se recycle pas, est-ce qu'on peut acheter en vrac par exemple, est-ce qu'il y a des alternatives sans emballage ou avec des emballages recyclables vers lesquels on peut se tourner. Donc en fait finalement c'est comme ce que je vous disais, ça a un impact sur les autres moments du cycle, mais voilà, c'est des réflexions qui sont intéressantes à mener pour agir sur le cycle de consommation dans le cadre de vouloir mener une vie plus simple. Enfin, la dernière étape de ce cycle, la cinquième, c'est qu'est-ce que la société fait de nos déchets une fois qu'on les a mis à la poubelle. Donc comme la toute première étape, celle-ci ne concerne pas le consommateur directement, puisque c'est tout ce qui se passe avec nos poubelles, avec le verre qu'on met au recyclage en verre, avec les vêtements qu'on met dans les points relais par exemple qui sont censés être recyclés. Donc tout ça, on n'a pas un contrôle direct dessus. Mais ça peut être intéressant de savoir justement comment sont traités nos déchets et quelles sont les différentes voies de traitement de déchets pour pouvoir choisir où et comment on dispose des objets dont on n'a plus utilité. Comme vous pouvez le voir, réfléchir au cycle de vie des objets donne plein d'idées et de pistes à partir desquelles on peut simplifier nos vies au quotidien. Mais la quantité de choses au sujet desquelles il faudrait se renseigner et le monticule d'habitudes qu'il faudrait changer paraît vraiment... insurmontable en fait, hein. Moi c'est un petit peu ce que je ressentais au tout départ lorsque j'ai voulu me réintéresser à la simplicité en 2011. Du coup ce que je peux vous inviter à faire, c'est de prendre le temps de comprendre un petit peu ce concept de cycle de vie des objets de manière générale dans un premier temps. Simplement pour avoir une idée globale de comment marche tout ça et d'avoir une base à partir de laquelle vous pourrez ensuite développer vos idées quotidiennes. Et puis ensuite, je vous invite à vous donner le temps de voir par où vous avez envie de commencer, en fonction de votre style de vie, en fonction de vos contraintes actuelles, en fonction de ce qui est disponible autour de chez vous, etc. etc. On n'est pas obligé de tout changer d'un coup pour mener une vie plus simple et sereine. Du coup, je vous suggère vraiment de prendre les choses une par une et de progresser à votre rythme. À l'époque, ma première étape a été de réfléchir à ma garde-robe en particulier, puisque c'est par là que j'ai pris conscience de mes excès. Du coup, je me suis renseignée sur la manière dont sont fabriqués les vêtements dans les grandes chaînes où j'achetais à l'époque mes vêtements. Je me suis renseignée sur les labels, par exemple, les labels textiles, autour de l'éthique, autour de l'écologie, ce genre de choses. Et puis j'ai choisi quelques actions simples pour acheter moins de vêtements, favoriser les marques éthiques, et je me suis constituée ce qu'on appelle une garde-robe capsule. Donc ça a été une première étape. Et une fois que j'ai vraiment pris le temps de mettre en place cette habitude-là, et ben je me suis intéressée à un autre aspect de la simplicité. Et j'ai fait ces choses-là vraiment une après l'autre pour me mener là où je suis 7 ans plus tard, où j'ai fait un travail sur plein d'aspects de ma vie et où je continue à implémenter des nouvelles choses dans mes habitudes quotidiennes. C'est un processus, on n'a jamais vraiment fini, puis ça n'existe pas le minimaliste parfait. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre les questions une par une, commencer par ce qui vous intéresse le plus, et puis d'avancer à partir de là. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si le sujet des garde-robes, capsules et compagnie vous intéresse. Je pourrais enregistrer une émission spécifiquement sur le minimalisme vestimentaire si ça vous intéresse. Et puis pareil, si dans les autres idées mentionnées, il y en a qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je pourrais les rajouter au sommaire des émissions futures. Donc en ce qui concerne la mise en pratique, parce que j'aimerais bien quand vous écoutez ce genre d'émission que ça vous motive à mettre les choses en pratique si vous en avez envie et si ça vous intéresse. Du coup ce que j'ai fait c'est que dans les notes de l'émission qui sont donc sur simple-cite.com/013, j'ai fait des listes non exhaustives, hein, simplement des petites listes d'idées sur les trois aspects, donc acheter, utiliser et jeter, d'idées que vous pourriez avoir envie d'implémenter, des pistes que vous pouvez avoir envie d'explorer dans votre vie quotidienne dès maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir et à puiser un petit peu d'inspiration si le cœur vous en dit. Pour terminer cette émission, je vais mentionner rapidement la ressource du jour vu que l'épisode commence à être déjà assez long. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir la chaîne YouTube qui s'appelle Un soupçon de rose. Donc Marjorie est une Canadienne francophone qui partage sur sa chaîne ses questionnements, ses idées et ses gestes concrets pour mener une vie plus minimaliste et écologique. Donc je trouve que ces vidéos sont assez courtes, très claires, elle donne plein d'astuces, elle partage son parcours et son expérience, et du coup, au fil des mois, j'ai puisé beaucoup d'idées dans ces vidéos, et du coup je vous invite à la découvrir, et à voir si éventuellement vous pourriez avoir vous aussi des idées à puiser dans les vidéos de Marjorie, dont la chaîne s'appelle Un soupçon de rose. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui sur le cycle de consommation. J'espère que vous avez apprécié votre écoute et que vous en tirez quelque chose d'utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire ou à passer le mot à vos avis qui en pourraient en avoir l'utilité. L'émission Simplicité est mensuelle et vous pourrez découvrir le thème de la prochaine émission dans les notes de celle-ci sur le site simple-cite.com/013. Dans ces notes, vous retrouverez aussi les idées principales abordées aujourd'hui ainsi que les ressources que j'ai citées. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine !